la France est comme mon père, la France est comme mon professeur, la France est comme maître. J'arrive en France pour trouver la connaissance avec France Culture.
Un camembert bien fait.
Un camembert bien fait.
À Paris.
À Paris.
On aime beaucoup le camembert.
On aime beaucoup le camembert.
C'est un fromage bien gras.
C'est un fromage bien gras.
On le fabrique avec le bon lait.
On le fabrique avec le bon lait.
De Normandie.
De Normandie.
Regardez une Parisienne.
Regardez une Parisienne.
Acheter un camembert.
Acheter un camembert.
Elle demande toujours.
Elle demande toujours.
Est-ce qu'il est bien fait?
Est-ce qu'il est bien fait?
Alors. L'épicier lui met le fromage.
L'épicier lui met le fromage.
Sous le nez.
Sous le nez.
Il sent fort.
Il sent fort.
Donc il est bien fait.
Donc il est bien fait.
Et la dame emporte son camembert.
Et là,
à midi,
son mari
va en manger un gros morceau.
Va en manger un gros morceau.
Avec un verre de Bordeaux.
Avec un verre de Bordeaux.
Ou de Bourgogne.
Ou de Bourgogne.
C'est un bon dessert.
C'est un bon dessert.
Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis avec Guy Ventil et Pascal Blanchard, Paris, terre d'Asie.
Flight number 2, arriving from...
On va faire un tour dans les étals pour voir ce qu'on reconnaît ou pas. Alors ça c'est des anones, oui. Durian, alors ça c'est une espèce de fruit.
Avec plein de petites piques autour qui fait penser à un hérisson.
Ouais.
Énorme, qui ressemble à de la taille, on va dire, du petit ballon de foot. Avec ses piquants autour, assez fantastique et extrêmement impressionnant dans les couleurs vertes et marron.
Ouais.
Je dois dire que très honnêtement, je n'en ai jamais mangé de ma vie.
Ça vient de Thaïlande. Après, on va avoir les mangues, on commence à connaître, les litchis, la poire nashi.
Très, très goûteux.
Noix de coco, mais débitée, des dattes fraîches. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une grosse rose.
Des fruits dragons. Qui viennent de Thaïlande ou d'Israël.
Ou d'Israël,
ça s'appelle. Comment ça s'appelle, madame, s'il vous plaît ? Le nom ?
Ça, Hong Long Kwa.
Hong Long Kwa.
Hong Long. C'est
sucré.
Oui. C'est hallucinant quand on voit tous les produits qu'il y a ici. On se rend compte que ça vient aussi bien de Chine, ça vient de Thaïlande, ça vient de Nouvelle-Zélande. Il y a toute une
basilic, suite basilic, Tito, Mum, Yanang, Sadao, Lalot, Rao Ram, tout ça, ça vient de Thaïlande et c'est des produits frais en plus.
Tout à fait, oui. Ça que là, c'est aussi une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de trouver dans le quartier du 13e et quasi de reconstruire les cuisines traditionnelles de la plupart des pays du Sud-Est asiatique.
Ça, c'est bon, ça. Il y a vraiment une barquette de rambutan. Ils viennent d'où, ceux-là ? Thaïlande.
Voilà, balade, saveur. La Chine au coin de la rue, la Chine à Paris. Tout le monde connaît ce bout de Chine, ce bout d'Asie, pas seulement de Chine. Dans le 13e arrondissement de Paris, c'est comme ça que commence notre balade aujourd'hui, dans le Paris-Asie, dans le Paris-Terre d'Asie, à l'occasion de la sortie d'un bouquin formidable, 150 ans de présence asiatique dans la capitale, avec des textes et des images qui retracent, qui essayent de retracer depuis la moitié du 19e siècle, cette présence et cette fascination ambiguë que nous éprouvons vis-à-vis de l'Asie. Alors là, c'est pas toute l'Asie, bien évidemment, dont il est question. C'est la Chine, c'est le Japon, c'est l'Asie du Sud-Est. Quand on dit Asie, on pense surtout à ces endroits-là. Là, c'est le Japon. Ce sera pour plus tard. Là, c'est donc la Chine et les pays d'Indochine, Laos, Vietnam, Cambodge, qui sont présents dans ce quartier de Paris. Fascination, ambigu, ça date pas d'hier. Attraction, répulsion, fascination, c'est sans doute le mot le plus utilisé dès qu'il s'agit de l'Asie. Et puis crainte, évidemment, du fameux péril jaune. Depuis le début du 20e siècle, Pascal Blanchard nous le disait hier, ce fantasme du péril jaune est présent jusqu'à quand la Chine s'éveillera. C'est une inquiétude permanente dans nos fantasmes, dans nos imaginaires. Mais Paris peut être vu comme une capitale extrême orientale. On l'a vu hier en se baladant autour de la gare de Lyon, où jadis rue de Chalons, aujourd'hui disparue. Eh bien, depuis le début du siècle, du 20e siècle, il y avait là un petit quartier chinois qui a été très riche et très fécond en idées, notamment en idées, pas seulement en restaurants chinois, parce que c'est là que ça a commencé, mais aussi en idées, puisque les grands leaders politiques d'Extrême-Orient, de Chine, ont vécu là et ont été là mis au contact avec les grandes idées occidentales, européennes, des Lumières, notamment les mythes de la Commune de Paris et les idées progressistes européennes. De ce quartier à celui où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire Chinatown, dans le 13e arrondissement, dans l'avenue de Choisy, évidemment, il y a tout un siècle qui peut se donner à voir, mais toujours avec une histoire quasiment invisible, comme si il y avait là une mémoire impossible, une rencontre qui n'avait pas fait corps, une rencontre un peu oubliée, un peu transparente, et un passé qui ne semble pas résonner dans nos imaginaires, dans nos idées, dans notre perception, comme les rapports que nous avons pu avoir et que nous continuons d'entretenir avec l'Afrique, les issues de la colonisation en Afrique, ou ceux qui sont issus de la colonisation dans le Maghreb. Là, c'est une autre histoire. Pourquoi est-ce que c'est si différent? C'est avec cette question qu'on se balade aujourd'hui dans ce quartier entre Lotus Bleu, Péril Jaune et Petit Livre Rouge.
Maintenant, nous voilà dans le 13e, dans l'actuel Chinatown.
Actuel Chinatown, tout à fait, devant l'église Saint-Hippolyte, connue pour le mouvement des sans-papiers. Et on a juste à côté, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, rencontre et culture franco-asiatique, tout un panneau des activités proposées par l'association. Donc on voit bien cette vie communautaire qui est entre business et vie active. Et puis, ce petit panonceau qui nous annonce la messe en chinois avec ses horaires à l'église
chaque dimanche à 11h30.
Exactement. Donc, on est vraiment au cœur d'un quartier qui, en fait, en moins de 30 ans, est devenu l'un des plus grands Chinatown d'Europe.
d'Europe.
Oui, tout à fait, oui. En termes de superficie et de population. Je ne connais pas le chiffre exactement de la population, c'est quasi impossible à savoir, mais on doit tourner à 30 000, 35 000, certainement personnes d'origine asiatique ici. Alors, la grande dominante, c'est quand même sino-vietnamiens. C'est-à-dire que c'est la grande vague de migrants qui sont arrivés 75-78 et d'origine du Vietnam, à ce moment-là, pour la toute première génération qui est arrivée ici, donc qui a occupé les tours que personne ne voulait prendre, hein. On n'a pas construit les tours pour les migrants vietnamiens, genre que dans la
les grandes tours qu'on voit là-bas, voilà. Qu'on appelle la dalle des Olympiades.
Voilà. Personne ne voulait vivre ici, c'était un échec urbanistique. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un flux de migrants avec les boat people qui est arrivé. Et le gouvernement fait une pierre de coups. C'est-à-dire qu'il en a saupoudré en Ile-de-France, on en mettait à Marne-la-Vallée par exemple, on l'a mis dans toute la France. Et à Paris, ben, il a fallu trouver l'endroit. Et comme personne ne voulait vivre ici, à ce moment-là, et ben, on a mis ces sino. Pour la plupart, j'ai bien vers 50% des sino-vietnamiens, et encore aujourd'hui. Hein.
Sino-vietnamiens, c'est des communautés chinoises qui habitaient au Vietnam.
Et qui ont été expulsés. Et des vietnamiens, là aussi, en cambodgiens, aussi, qui sont venus s'installer dans toutes ces vagues qu'on connaît dans les années 80. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est à la fois véritablement un Chinatown au sens plein et entier du terme, comme on peut retrouver aux États-Unis par exemple, ou en Malaisie, ou dans le reste du monde. On a vraiment affaire, peut-être, au seul véritable quartier ethnique en tant que tel, avec toutes ces composantes qui existent sur Paris. C'est un peu ce quartier qui a disparu maintenant de l'île aux Chalons, de la passe Raguineau et compagnie, mais en version 25 fois plus grande.
Voilà où nous sommes, donc en Chinatown de Paris, le nôtre, celui de notre belle capitale. Et curieusement, quand on parle de communautarisme, quand on parle de communauté, on oublie toujours cette communauté. Hein, et pourtant, c'en est bel et bien une, avec bien déterminée, bien définie, bien localisée aussi géographiquement, bien organisée, se pliant aux règles et aux lois républicaines, dans une certaine mesure. On va voir que c'est pas toujours le cas, que la notion d'état de droit n'est pas forcément toujours parfaitement assimilée dans cette communauté. Je pense évidemment au travail clandestin, je pense évidemment aux sans-papiers. Il faut rappeler que dans la région parisienne, on évalue à 300, 400 000 le nombre des Asiatiques, et comme le dit Pascal Blanchard, 35 000 dans ce quartier de Chinatown qui s'est développé donc avec le temps. Et là, on trouve pour structurer cette communauté, eh bien, une concurrence entre deux familles. Et ça, on retrouve ça très souvent, hein, de façon de structurer les communautés. On trouve ça dans le monde palestinien, on trouve ça au Yémen, sans doute dans beaucoup d'autres endroits. Mais là, je parle de lieux ou d'endroits où nous sommes allés en reportage. Là, on trouve ça aussi dans Chinatown, entre les Tochou et puis les Wenzhou. Et ça, c'est deux grandes familles qui sont concurrentes et qui structurent ce quartier. C'est des choses qui se savent pas toujours et qui effectivement ne sont pas forcément dans le droit fil de l'idée républicaine. Mais ça ne pose pas de problème. Il y a cette invisibilité. On continue la balade.
Ces gens qui arrivaient avaient des sous. Beaucoup faisaient partie des élites au Vietnam. Alors beaucoup sont arrivés avec rien et d'autres sont arrivés avec des moyens financiers. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première idée, ils ont fait exactement comme leurs aînés avaient fait 80 ans avant ou 40 ans avant. Ils ouvrent des restaurants. Ben, 20, 30 000 personnes s'installent ici. Comme il n'y avait pas de restaurant asiatique ici, commençons pour ouvrir des restaurants asiatiques. Puis ben, deuxième étape, les supermarchés. On est face à Paris Store. C'est-à-dire qu'il est logique dans un quartier où vivent 20 à 30 000 Asiatiques et où passent le week-end 50 000 Asiatiques.
Ah oui.
Ce qu'il faut quand même avoir aussi en tête, c'est que vous êtes à la fois dans un épicentre de vie, dans un lieu de passage fondamental, on vient faire ses courses. La logique du supermarché, du restaurant est logique. Puis après, bah, vous avez tous les commerces périphériques, l'agence immobilière, l'assureur, tous les petits métiers qui vont être de complément de vie vont s'installer même dans le quartier. Donc petit à petit, bah, vont être achetées toutes les boutiques du quartier. Et ben non. Alors si vous regardez véritablement la plupart des rues qui forment le triangle de Chouévi, il n'y a à 80% que des boutiques asiatiques. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on arrive dans les années maintenant 90. Bah, ce quartier est devenu attirant pour les autres Parisiens parce que c'était une manière de découvrir l'exotisme asiatique. On en mangeait dans le 13e. On doit tourner à quelque chose comme 400 restaurants dans le périmètre, ce qu'on appelle le triangle de Chouévi.
On voit un monsieur un cuistot à la fenêtre, là, de l'impérial Chouévi.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité ici aussi bien à se nourrir, à acheter. Il y a les grands supermarchés des frères Tang qui est quand même, on peut le dire d'une certaine manière, la personne emblématique et la famille emblématique, les frères Tang, la famille emblématique du quartier. C'est-à-dire qu'ils ont été les tout premiers d'abord qui ont une réussite sociale visible, qui ont aujourd'hui l'une des plus grandes associations culturelles dans la communauté chinoise, qui sont un lien permanent, alors eux d'origine laotienne, mais en même temps sino-laotien. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, ils revendiquent beaucoup plus leur identité chinoise que la haussienne, mais qui font le pont entre l'Indochine et la Chine. C'est là où on voit bien que justement ces sino-vietnamiens, sino-laotiens, sino-cambodgiens sont entre deux cultures, et même entre trois cultures avec la France. C'est-à-dire parfaitement intégré à la France, complètement intégré dans le quartier, mais aussi totalement intégré au jeu de la République et à l'intégration, puisque ce sont des associations qui aujourd'hui sont des porte-parole d'un côté des communautés asiatiques du quartier et en même temps de véritables poids politiques, de véritables poids économiques en France. La capacité des frères Tang, comme d'ailleurs de Paris Store, c'est plusieurs dizaines de supermarchés en France, c'est importateur de produits asiatiques ici, mais en même temps ce sont des figures, je dirais, politiques représentatives. Et ce qu'il faut voir aussi, des exemples, c'est-à-dire des gars qui sont arrivés dans les années 70 et qui ont véritablement, à travers leur supermarché, qui est une vision, mais derrière, vous avez tout ce que peut s'appeler le groupe Tang, c'est-à-dire aussi bien l'immobilier et autres, et qui symbolisent aussi une réussite de ces populations en France, dans le monde du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va chercher la figure asiatique de la réussite, eh ben, on va la prendre encore dans le business. On va pas la prendre dans le sport ou dans les médias, dans la politique. Alors que si on va le chercher sur les Africains, vous pouvez être sûr qu'au bout de 2 minutes, on va vous parler d'un joueur de foot ou d'un musicien. Et que si vous allez chercher sur les Maghrébins, on va vous parler de figure politique.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes un moine bouddhiste?
Oui, je suis vraiment moine bouddhiste.
Cambodgien, j'imagine, ou...
Je suis cambodgien.
Voilà, c'est ça. Ouais. Sauf qu'on voyait à la couleur de votre toge, c'est ça?
Oui.
Et là, c'est quoi ce petit sac?
Ça, c'est comme assiette. Pour les gens ordinaires, beaucoup de cuillères, beaucoup de fourchettes, ça veut dire beaucoup chaud. Mais pour moi, le Bouddha, il donne une bowl seule, c'est tout. Depuis 2500 ans déjà passés, le Bouddha, le grand chef des bouddhistes, il fait comme moi. Le matin, je demande nourriture, simplement.
Voilà, c'est pour ça que vous avez votre assiette.
Oui.
Vous allez voir les gens, les magasins.
Ils donnent des gâteaux, donnent du riz, des plats récents que des boutiques, ils achètent, ils m'ont donné tout de suite comme ça. C'est offrande de nourriture. Et après, si les gens me demandaient quelques questions, parce que quelqu'un a besoin de conseils de moine, il me demande ma réponse.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le quartier ici? Parce que c'est vraiment Chinatown dans Paris.
Ah, Chinatown, ça n'existe pas, c'est la France. Voilà, c'est la France, ici c'est en France. Moi je pense pas Chinatown ou Chinois, Cambodgien, je pense pas, ça c'est le gouvernement français qui acceptait pour donner liberté, pour créer le marché et tout ça. C'est la France, c'est liberté, c'est pouvoir de France et tout. Je pense pas chinois. Et c'est la vie adaptation pour la langue française, pour la civilisation française. Par exemple, en France, on a beaucoup de choses. Quand on a du vin, il y en a meilleur vin. Quand on a des filles belles, on a la fille française très belle. Quand on a le...
C'est un moine bouddhiste qui nous dit ça.
Oui. Ça, c'est pour les autres. C'est pas pour moi.
Ah non, je suis bien, attention.
Voilà.
Bon courage à vous et bonne chance.
Oui, merci. Je crois bien que vous et moi gagnez à l'avenir.
J'espère aussi.
Merci à vous.
Merci.
Bon courage. Merci bien.
Merci à vous.
Bouddha au pays des célestes est un dieu très très indolent. C'est un bon ventru, un gros joufflu qui fait la sieste 361 jours par an. Avec un large et bon sourire, il contemple heureux son nombril. Mais ce qu'il adore et ce qu'avant tout il désire, c'est qu'en passant lui sourit. Bon Bouddha, Dieu t'audu puisque c'est ton dada. Ah, ah, ah. Bon Bouddha, non jamais on ne te boudera. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Faut pas bouder, bouder, Bouddha, sinon Bouddha, Bouddha, Bouddha. Et lorsque Bouddha, 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 c'est pour nous le grand coup de vent. Bouddha, boubou, de Bouddha.
Tous ces restaurants qu'on voit dans ces quartiers, qui maintenant ont pour certains 10, 15 ou 20 ans d'existence, j'ai oublié une chose qui est fondamentale, c'est qu'ils passent très souvent de main à main, dans la même famille par exemple, ou dans la même tontine. C'est-à-dire qu'on commence par dans la restauration, puis on fait après un autre boulot, voire un autre boulot, voire un autre boulot. Et c'est-à-dire que ce restaurant va servir très souvent, va être transmis au nouvel arrivant, qui va lui prendre en main le restaurant, qui va peut-être le gérer pendant 3-4 ans, puis lui-même va le passer à un autre, il va partir sur un autre business quand il va être... Il va avoir, par exemple, la capacité de rembourser son pécule pour son voyage, ou de rembourser ce que la tontine a amené pour lui, ou tout simplement d'avoir le temps de s'acclimater à la France. C'est-à-dire que c'est aussi et fondamentalement un lieu d'intégration sociale dans le pays en arrivant. Et ça,
c'est la tête de pont.
C'est la tête de pont qu'il faut bien limiter. Alors il y a ça, et puis il y a pour la partie la plus négative, les ateliers clandestins. Et aujourd'hui, bah, c'est simple, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui sont le plus en marge de la société, ceux qui arrivent notamment par les filières de Chine actuellement
d'immigration
clandestine, se retrouvent dans des ateliers qu'on ne voit pas clandestins, dans les appartements, qui sont les parties hautes, pas seulement de ce quartier, c'est pareil à Belleville ou à Arémétier. Et eux, par contre, ont 3-4 années quasi au fond des ténèbres, dans des conditions de vie qui n'ont vraiment rien à envier de ce qu'on pouvait imaginer dans les années 20-30. C'est-à-dire que c'est vraiment des conditions extrêmement dures, 18 heures par jour. Parce qu'ils ont 3 ou 4 ans pour rembourser les 10, 15 000 euros pour coûter le voyage.
Voilà, 100 000 francs.
Et ils sont, et en même temps, complètement tenus par leur patron. Il faut être très réaliste dessus. On n'est pas loin d'un marché aux esclaves là-dessus et aux travailleurs. Puisque leurs patrons tiennent leur passeport ou tiennent leurs papiers. Ils ne connaissent pas la langue, donc ils n'ont aucune possibilité pour se défendre. Et ils savent que s'ils vont se prendre aux autorités, ils sont expulsés dans les 24 heures. Donc, conclusion, on a véritablement affaire aussi à une exploitation intracommunautaire, pas les derniers arrivants. Et là, on a un processus, je dirais, entre guillemets, froidement humain. C'est que le dernier arrivant occupe les pires fonctions du système qui permet d'une manière très classique d'enrichir ceux qui sont là pour plus longtemps par rapport à ceux qui arrivent. Je dirais que d'une certaine manière, c'est presque une sorte de parcours initiatique. Soit on est introduit via un clan, via une région, via une famille, on va vous mettre dans le restaurant, on va le mettre en gérance, vous allez travailler dans ce restaurant-là. Soit de l'autre côté du prisme, si vous n'avez pas de lien familial ou si vous avez une dette pour le voyage, vous allez vous retrouver au plus bas de l'échelle. Et quelque part, vous faites votre parcours initiatique qui est d'une totalement des humains. Je veux dire, les gens vivent dans des conditions. Si vous regardez les petits ateliers de confection, ce sont des Asiatiques, l'exploit des Asiatiques.
Salut, Long Weili. Voilà, soyez les bienvenus.
Merci, merci.
Ici, on est chez véritable tapot. Ils sont très gentils de nous ouvrir la porte. Ici, c'est une pièce, je pense, de 13-14 mètres carrés. Et devant nous, il y a 3 lits superposés, un petit étagère, une prise de télé. Ils vivent à 6 personnes, déjà. Alors, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans la deuxième pièce, derrière. Cette pièce-là, c'est encore plus petite et ça fait 11-12 mètres carrés. C'est encore 3 lits superposés. Et ici, c'est 8 personnes, mais ça fait 13 personnes. Et il y a un monsieur qui loue cet appartement et chacun participe au loyer. 90 euros.
Alors, qui est le propriétaire? C'est un Chinois? C'est un Français?
Ça, écoutez, monsieur, eux, ils ne voulaient pas vous dire, c'est leur petit secret, hein? Voilà. C'est compliqué. Donc, mais ils vivent ici, et l'autre est en train de lire le journal, l'autre est en train de fumer une cigarette, et ils vivent en petit groupe. Ils ont déjà préparé quelques plats, ils vont manger. Ils travaillent très dur à l'extérieur, mais une fois, ils rentrent ici, dans ce petit royaume, mal rangé, pas très propre, mais au moins, ils sont chez eux.
Alors vous pouvez nous les présenter?
Présenter, oui. Monsieur Zhang, voilà, c'est lui.
Ni hao.
Ni hao. Monsieur Liang, voilà. Monsieur Liu. Je suis en France depuis 5 ans déjà. Alors, déjà en Chine, j'ai tellement entendu parler de la France. Pour nous, la France est un beau pays. Ils ont dit qu'on peut gagner beaucoup d'argent ici. J'ai payé une agence de voyage. Alors, j'ai payé 50 000 yuan à cette société, équivalent à aujourd'hui, c'est 5 000 euros. Et je ne sais pas comment cette société a fait, et ça ne me regarde pas. Alors, donc, le passeport, l'obtention de visa et le billet d'avion. Alors, moi, je suis parti. Et je suis arrivé en France. À l'arrivée à Paris, l'aéroport Roissy est très joli et grandiose. Et dans la voiture, je vois l'autoroute, les grands immeubles, les gens sont sympas, ça aussi ça fait plaisir. Mais une fois, je suis arrivée, j'étais très déçue. C'était comme ça, c'était sale, il y avait beaucoup de monde, mais je n'ai plus de choix. Il faut que je rembourse ce que j'ai déjà payé en Chine, au moins ça.
不是说天天有活儿，
就一般的，
平均三四百块钱吧，四百多块钱，四百五块钱最多了。
Ce n'est pas tous les jours je pouvais travailler et donc je gagne en moyenne entre 400 et 500 euros par mois.
寄了三千欧元。
一年以来。Depuis un an que je suis ici, j'ai en tout envoyé à ma famille 3000 euros.
有的是在这里老板上这开车来，我们在百乐为了他找我们。干。
Au quartier de Belleville, il y a un kiosque de journaux derrière, il y a un trottoir. Et là, c'est uniquement pour les Chinois sans papier. Et nous nous mettons là-bas pour attendre le travail. C'est-à-dire, il y a des patrons chinois qui ont besoin de la main-d'œuvre provisoire. À ce moment-là, ils viennent là-bas. Et maintenant, nous n'osons plus y aller parce qu'il y a beaucoup de contrôle de papier.
就是我个人就是很遗憾没有挣到钱就让人家给弄回去了。
Alors, si demain, je fais expulser par la police française vis-à-vis de ma famille, alors j'ai un seul regret que j'ai pas assez gagné de l'argent et j'ai pas encore pu rembourser mes dettes et j'ai une honte vis-à-vis de ma famille.
Magouille. Ta, yo, yé, on est dans des cités.
Elle dit, grand-père, mère, arrière-grand-mère, vous allez bien? Ah bon, vas-y.
Chiché.
Voilà les petits enfants chinois, enfin d'origine chinoise, ceux-là sont tout à fait français. La maman est française, devenue française. Ça, c'est ceux qui aujourd'hui sont intégrés. D'ailleurs, à la suite de luttes, vous vous souvenez de ces luttes des sans-papiers chinois en 1996-97. Et à la suite de ces luttes, un certain nombre d'entre eux ont été régularisés. Et ses enfants font partie d'une famille dont les parents, la maman en l'occurrence, a été, grâce à ses luttes, régularisée. Mais c'est pas le cas de tous. Ce qu'on voit là, ce petit reportage, enfin ce bref reportage, pas petit parce qu'il fallait y aller, nous donne une autre idée, une autre image des charmes et de la fascination et de la grâce asiatique. C'est tout à fait autre chose. C'est quand même des revenus d'autour de, on vient de nous le dire, de 400 à 500 francs, 500 euros par mois, c'est-à-dire autour de 3000 francs, c'est-à-dire autour de 36 000 francs par an, et dont plus de la moitié est envoyée à la famille pour rembourser les dettes contractées là-bas pour le voyage. Il y a comme ça des milliers, alors évidemment, par nature, on ne sait pas très bien combien. Par définition, je veux dire, on ne sait pas combien, évidemment, d'Asiatiques, de Chine ou d'Asie du Sud-Est qui vivent dans notre belle capitale, dans ces conditions. Et on rappelle, une fois de plus ici, qu'on n'est jamais aussi bien exploité que par son propre frère. Parce que dans ces systèmes ambigus de solidarité, le premier arrivé fait venir la famille, il y a là-dedans sans doute beaucoup de générosité, de solidarité, il y a une fascination pour le pays riche, le nôtre, pays des libertés aussi, ces deux arguments évidemment pour ce dépit, aussi le goût du voyage. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, toujours des raisons strictement économiques. Il faut jamais oublier ça dans ces phénomènes de migration. Il y a aussi simplement le fait de voyager. On avait vu au Mali, par exemple, comment les Soninkés du Mali doivent avoir voyagé. doivent avoir été ailleurs avant de fonder une famille et de s'installer. Eh bien, c'est le cas dans beaucoup d'endroits du monde. Mais bien évidemment que c'est d'abord la raison économique qui prévaut, et on voit comment ce système, bien sûr, rapporte à ceux qui sont déjà installés, à ceux qui sont déjà intégrés, qui n'ont aucun scrupule à exploiter leurs propres congénères, mais évidemment au système en général, c'est-à-dire qu'en fait la lutte contre les travailleurs clandestins, contre les sans-papiers, est une lutte purement artificielle. C'est un moyen de maintenir le système, c'est un moyen auquel le patron aura recours pour qui est un moyen de pression sur ces travailleurs qui sont effectivement qui vivent dans des situations d'esclavage pur et simple.
Si vous intéressez au parcours de ces jeunes femmes qui viennent du nord de la Chine aujourd'hui, les Dogbi, qui s'installent par exemple en France, vous vous rendez compte que notamment sur le parcours, sur leur histoire, sur leur destin, les traumatismes de l'immigration, les traumatismes du voyage ici, ou le remboursement pendant 4-5 ans dans un atelier clandestin, en termes de traumatisme, il n'y a pas grand-chose qui a envie aux autres populations. La grande différence, c'est pas visible, on n'en parle pas.
Et que ces trafics aujourd'hui arrivent à des situations, rappelez-vous l'année dernière dans la presse, on a vu quelques articles sur des défenestrations de personnes qui n'avaient pas remboursé. Donc quelque part, les mafias qui arrivent aujourd'hui ne sont pas forcément tendres, entre guillemets, et sont beaucoup plus violentes que celles qui avaient connu avant. Donc maintenant on commence à rentrer dans le visible, et puis quelque part dans une société de droit, c'est inacceptable d'avoir des gens qui travaillent encore comme des esclaves, parce que c'est la réalité. Pour les nouveaux arrivants, dont au moins la moitié d'entre eux se retrouvent dans des conditions de travail qui sont vraiment des conditions d'esclavage.
Avec les changements de ces 10 dernières années, il y a aussi quelque chose de très nouveau qui s'est passé dans la communauté asiatique, à l'occasion des mobilisations des sans-papiers au départ africains, c'est une visibilité. C'est justement, on sort dans la rue et on organise des collectifs de sans-papiers, on commence à intervenir un peu sur la place publique. Quoi.
L'histoire des sans-papiers est intéressante à voir à trois niveaux. D'abord, les Asiatiques, les Chinois essentiellement, ont pris conscience que via le mouvement des sans-papiers, qui était essentiellement les Africains au départ, il y avait une possibilité pour donner les papiers rapidement. Et donc c'est une manière de sortir de la clandestinité qui était la leur et de la mainmise qu'avait leur patron sur leur dos, premièrement. Deuxièmement, les sans-papiers ont aussi tout à fait compris qu'à ce niveau-là, on pouvait jouer sur une corde sensible pour donner les papiers plus rapidement auprès des autorités françaises. Et là, la différence des autres, ils se sont extrêmement bien organisés. C'est-à-dire qu'ils avaient des avocats, par exemple, dès le début, pour bien remplir les dossiers en préfecture. Leur mécanisme communautaire, le fait d'avoir des avocats, le fait de préparer les dossiers en commun, vont faire que le taux des deux premières générations de sans-papiers est de 87% des papiers obtenus, uniquement dans le phénomène des sans-papiers chinois. Un phénomène qui, sans même qu'ils s'en rendent compte, ils sont sortis du cadre habituel.
Voilà.
Ils ont eu l'impression de totalement contrôler l'instrumentalisation, mais en même temps, pour la première fois, ils ont donné une visibilité à une communauté qui n'en avait pas. Ce qui n'a pas été forcément très apprécié dans la communauté chinoise.
Voilà, parce que c'est faire des vagues.
C'est faire des vagues et d'un seul coup, c'est se présenter comme des victimes. Et là, on se rend bien compte que d'un seul coup, l'instrumentalisation de la médiatisation du phénomène des sans-papiers leur a échappé. Et ils ont été regardés exactement à l'aune des Maghrébins et des Africains. Et je dis, fondamentalement, ceci n'a pas du tout été apprécié par le reste de la communauté asiatique en disant, mais attendez, nous, on n'est pas comme les autres. Parce que n'oublions pas que même le regard intra-communautaire en France est un regard tout aussi prégnant que le regard du dominant sur le dominé. Et donc là, il y a eu une critique interne. Même s'il y a eu réussi l'obtention de ces papiers, il y a eu une critique interne en disant « Mais c'est quoi ces va-nu-pieds, dernière génération arrivée, qui casse l'image parfaitement construite des Asiatiques en France ?» Car ils l'ont cassé. Victimes de l'histoire, qui réclament les sans-papiers, qui arrivent, qui revendiquent et qui, quelque part, manifestent dans la rue. Et on n'avait jamais vu ça depuis la guerre du Vietnam. Mais à l'époque, c'était légitime. C'était contre les Américains, US Go Home, ou c'était dans un cadre beaucoup plus respectueux de la lutte contre l'Indochine et le départ de la France.
Un petit bruit familier dans beaucoup, beaucoup de ces ateliers. Beaucoup d'ateliers clandestins, mais il n'y a pas que des ateliers clandestins, évidemment. Il ne faut pas imaginer tous ces Asiatiques dans des sixièmes sous-sols, sixièmes dessous, en train de faire de la couture. C'est quand même pas une généralité, mais il y a effectivement beaucoup de ces ateliers clandestins. Ce que nous dit Pascal Blanchard, pour ce qui concerne cette exploitation, c'est que la vision communautaire de la société n'empêche pas le rapport dominant-dominé, que ce soit les dominants supposés être les blancs ou les occidentaux sur les orientaux, encore que ça devient, c'est pas toujours vrai, mais le principe dominant-dominé existe bien évidemment à travers une communauté, la vision communautaire ou communautariste de la société n'enlèvera pas ce principe d'être évident. Et on le voit là dans cette exploitation, cette surexploitation particulièrement sévère. Alors on était avec cette famille, on a entendu ses enfants et cette famille, je disais, cette femme avec ses très jolies femmes, avec ses très jolis enfants dans cet atelier du centre de Paris où on fabrique des sacs et de la maroquinerie. À la suite effectivement des fameuses luttes de mobilisation des sans-papiers de 1996, elle a été, elle et d'autres, grâce aux luttes du troisième collectif, régularisée. Et on l'avait rencontrée en 1999 dans cet atelier. Et c'était assez drôle de voir que si effectivement en Chine, à Guangzhou par exemple, mais ailleurs, on rêve d'Occident, on rêve de France spécialement, c'est le contraire aussi. Il arrive qu'à Paris, on rêve de la douce vie de Chine. Qu'est-ce que tu leur racontes sur la façon dont tu vis ici? Est-ce que tu leur dis que c'est le paradis, que c'est la tour Eiffel, c'est les lumières, c'est...
Je dis la vérité. Comment ça se passe ici, comment on travaille, comment... En tout cas, moi, je cache rien. Je travaille combien de temps d'heures
Combien d'heures? Beaucoup.
Beaucoup, ça peut être 10 heures, 15 heures, 10 heures, 12 heures.
Par jour,
tout dépend. Des fois, c'est rien. Mais eux, là-bas, c'est reposant. C'est vraiment reposant. Ils font rien. Ils travaillent, mais ils font rien.
Et moi, je m'imagine que les Chinois, ils sont en train de travailler tout le temps, en train de cavaler dans tous les coins.
Mais ils font rien. J'ai ma troisième soeur qui travaille dans l'administration. Elle part le matin à 8h30. À 11h, c'est fini. Et reprend à 3h30 et termine à 5h. C'est reposant, hein. Elles ont tout. Même une bonne est à faire la cuisine pour eux, dans la famille. Les filles sont, elles regardent la télé, le journal, pas de travail. Ils n'ont pas de soucis, rien du tout. Donc ici, il n'y a pas de boulot, il faut manger quand même. Il faut payer le loyer. Donc là-bas, ils sont entre copines. Le soir, c'est discothèque, karaoké, c'est tout ça. Ici, elles n'ont rien du tout. C'est que le boulot, rester enfermé dans leur appartement pour travailler dans la confection.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent de là-bas?
Oui, d'un autre strict. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent encore. Ils viennent ici parce qu'ils ont leur raison. Il y en a qui ont peut-être des problèmes là-bas, ils préfèrent venir ici. Ils ont des dettes, des choses comme ça. Ou les familles qui sont ici, qui leur racontent qu'ici c'est bien, c'est la belle vie, c'est le paradis, ça donne envie de venir ici aussi. Vu que quand ils rentrent en Chine, ils se sont servis comme des rois. La vie est belle, quoi. Tout le monde se dit, ceux qui viennent d'un pays, que ce soit la France ou l'Amérique, ils sont très très riches, quoi. Il faut aller là-bas pour gagner beaucoup d'argent.
Mais tous ces gens-là renvoient de l'argent au pays.
Oui, ils renvoient de l'argent, ils font construire des immeubles, ouais. Ils font beaucoup de choses là-bas, quoi. Ça donne envie, quoi. Quand ils arrivent là-bas, ils sont bien habillés, ils mangent bien, ils vont au restaurant, ils vont à l'hôtel, machin, et qui peuvent même payer 400-500 francs la nuit. Alors ça vaut un salaire d'un petit employé.
Là, en une nuit, ils peuvent claquer ce qu'un petit employé gagne en un mois.
Seulement l'hôtel.
Ils font des économies ici pour aller flamber là-bas.
Voilà. Ici, ils sont radins. Ici, c'est la ceinture, ils s'habillent comme des clodos, ils mangent je ne sais pas quoi, et quand ils arrivent là-bas, ils montrent qu'ils sont très très riches. C'est ça qui ça donne envie aux autres de venir ici. Et quand ils sont arrivés ici, ils voient que c'est... Il faut travailler dans des conditions comme ça et tout.
Alors nous voilà au point de départ. Nous voilà en 1999 à Shanghai dans ce qu'on appelle un karaoké. Ça pourrait tout à fait, on dit karaoké, mais la bonne traduction c'est bordel. On est dans un bordel, oui, tout à fait. Et dans ce bordel, on va rencontrer un personnage tout à fait louche, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va nous proposer, à Guy et moi, un marché. Un marché qui pourrait nous enrichir. Ce qu'on va entendre a été, c'est tout à fait exceptionnel dans la base, si j'y suis, enregistré à micro caché. C'était donc en 1999.
couverture épaisse, la dorure, j'aime beaucoup là, c'est très en vogue la dorure et le cristal.
Hello.
Bonsoir, mademoiselle.
Yeah.
Du doré, des miroirs. Merci. Et là, on rentre dans le petit salon privé, c'est ça?
Ouais. C'est un grand salon privé.
Ah, excuse-moi, grand salon privé.
C'est le plus grand.
Hello.
How do you do?
Mademoiselle qui vient de me dire bonjour. I come from France.
Paris.
Yes.
Asseyez-vous. Tu peux danser, tu peux toucher, tu peux...
Faire ce que vous voulez.
Voilà. Tu peux amener à la maison.
Que les papis maoïstes se retournent dans leur petit livre rouge. Nuit de Chine, nuit câline. Ici, tout s'achète, absolument tout. On va au karaoké. Il faut savoir que le trafic de sans-papiers à travers le monde rapporte plus que le trafic de la drogue. Ça paraît extraordinaire. En tout cas, on comprend et on va comprendre que c'est un business tout à fait juteux. C'est une rencontre qu'on va faire dans ce karaoké tout à fait exceptionnel avec Chang. Chang a longtemps vécu en France, il est chinois, et vous allez voir qu'il est un passeur. Chang.
La plupart des gens, ils partent pourquoi alors ?
Ils partent pour le vivre. Parce qu'en étranger, ils gagnent plus facilement. Quoi.
Toi, tu les aides à partir.
Voilà, moi, juste pour donner le visa et tout, ils me payent et puis ils passent et tout. Moi, je m'en fous si tu reviens ou pas.
Combien de fil pour le visa ?
Le visa, c'est tout cher.
C'est combien ?
40 000. Hein.
40 000 francs ?
Yen.
40 000 francs, quoi. Et toi, tu fais la connexion entre les gens qui veulent partir et les gens qui font les visas.
Voilà.
Partir d'ici aujourd'hui,
ouais.
Ça coûte 35 000 balles.
Même plus. 125 000.
Le tarif, c'est 100, 125 000.
125 000 yuan.
Ouais.
Alors, 125 000 yuan, il y a 40 000 pour le visa et après.
Ouais. Après, il y a un billet, aller-retour.
Ah, il faut prendre le retour.
Ah ben oui, sinon, tu n'as pas de
touriste. Bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut payer?
Il faut payer le guide.
Ouais. Qui fait passer le groupe comme un groupe de touristes.
Voilà, 1000 dollars.
1000 dollars. Il emmène combien de personnes pour 1000 dollars?
Je sais pas, une dizaine, une vingtaine.
Il les emmène jusqu'au bout.
Voilà.
Pourquoi tu restes en Chine, toi?
Moi, c'est pas pareil. Moi, je gagne au moins 150 000 francs par mois. Ouais. Moi, je dépense beaucoup. Chaque mois, moi, tout seul. Je dépense 50 ou 60 000 francs chaque mois.
En allant au karaoké tous les soirs, voilà, comme ça, en payant des filles.
Avec des gens de policiers, tu vois.
Des amis policiers pour voilà. Être sûr d'avoir pas avoir de
voilà.
Problème.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça.
Il faut que tu arroses les flics.
Bah, on connaît partout. Voilà, même l'année dernière, on a acheté une voiture, une Mercedes.
Ouais.
Mercedes.
Cato.
Pour qui?
Pour l'ambassade.
L'ambassade de Guinée, vous lui avez offert une Mercedes?
Ouais. Tu sais, on a du poignant, on peut acheter.
On peut acheter qui on veut.
Voilà. On peut acheter la maire.
Le maire?
Le préfet.
Le maire, le préfet.
Ouais. Ouais, on peut acheter. Tous les jours, amis, copains, viens chez moi. C'est comme ça.
Ouais, c'est pas compliqué. Alors, tu veux faire ça pendant combien de temps? Tu veux t'arrêter?
Je sais pas.
Pour l'instant, tu continues.
Je sais pas.
Ouais. C'est dangereux quand même, non?
Non,
il n'y a pas de risque?
Il n'y a pas de risque. Si même il y a des problèmes graves, juste un pays, c'est tout. On paye l'argent.
Alors attends, je monte une société en France avec 50 000 balles.
Ouais.
Ok. Je me mets en cheville avec toi, par exemple. Moi, je peux obtenir des visas pour les gens qui veulent venir.
Ouais. Hein,
combien je peux faire venir avec ma société?
Combien de personnes?
Ouais.
Tu peux faire une dizaine?
Une dizaine.
Ouais, une dizaine.
Donc, je leur fais obtenir le visa.
Ouais.
Et je te demande 30 000 balles par visa.
Ouais. Pas mal, hein? Sans payer taxes. Juste quand tu fais des papiers, demander ambassade, enfin consulat, faire le visa, c'est tout. Le reste, moi, je le fais. Direct, prends l'avion, là-bas, il y a quelqu'un déjà à l'aéroport qui a fait sortir, c'est tout, voilà. Paye. Ma femme. Oui,
c'est sa femme.
Oui.
Et voilà, comment on peut devenir très riche en dégotant des visas pour des sans-papiers. Si vous avez compris la combine, évidemment, la France délivre des visas au compte-gouttes, sauf pour le business. L'argent circule, les produits circulent, il faut bien que les businessmen, les hommes d'affaires, les commerciaux, circulent. Donc, ici, je monte une société en France et ainsi je peux inviter les Chinois à venir faire des affaires ici en France, pourquoi pas. Et alors voilà, pour ce qui concerne le visa, ils sont prêts à donner 30 000 francs, des 100 000 francs que coûte le passage. Pour les Chinois, voilà le credo. Avec le pognon, on peut tout acheter. Le pognon, c'est la liberté. Bien sûr, c'est ça la vérité, c'est ça qu'il fallait démontrer. Le pognon, c'est la liberté. Merci à tous. Reportage Guy Vantil, merci à la famille Zhou de Wenzhou, à Vesao Wang, à Shang, à Cindy et à Dylan. Merci à Pascal Blanchard, auteur de Paris, Asie aux éditions de la Découverte. Merci à Alain Levkovitch pour les extraits de son reportage clandestin chinois de Belleville. Autre chose tout à fait différente, le mardi 30 novembre à 19h30 à l'église Saint-Eustache à Paris, le collectif Les Morts de la Rue organise une célébration interreligieuse à la mémoire des morts de la rue. C'est à l'église Saint-Eustache, je le répète, c'est dans le premier arrondissement de Paris. Et puis ce soir, que fera Pascal Le Pascariello? Eh bien, à l'occasion de l'anniversaire de l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN, créé le 17 novembre 1983, ça vous le saviez bien, eh bien, à Paris, dans le 20e arrondissement, le quartier de Ménilmontant va vivre à l'heure zapatiste de 19 à 22 heures au Loup Pascalou, rencontre avec Gloria Munoz Ramirez, auteur du livre EZLN 20 et 10, Le feu et la parole, suivi d'un concert. Voilà, plus d'informations à votre disposition sur le site de la BAS, si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. La musique, c'est Yann Chouquet. Le montage, c'est Raphaël Moutarde. Le répondeur, c'est passé Christophe Humbert. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. daniel.mermet@radiofrance.com. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Demain, on est encore dans Paris asiatique, Paris terre d'Asie. Ce sera à 17h demain. D'ici là, dans quelques instants, au bout de 2 minutes de pub, vous allez retrouver Frédéric Bonneau et son charivari. Salut !